J'en arrive à la suite du texte. Je ne sais pas ce que j'en ai fait d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai fait avec mon texte? Il est là. Vous comprenez qu'ici, penser la philosophie comme culture, c'est prendre, vous voyez, l'agriculture comme modèle et dire qu'il ne s'agit pas, il faut se cultiver, ça ne pousse pas tout seul, mais en même temps, il faut qu'il y ait une bonne disposition. Et qu'est-ce que c'est que cette bonne disposition? Voilà, il y a un mystère de la bonne disposition des âmes. Et que la philosophie est impuissante à cela, vous voyez, à créer en elle-même cette bonne disposition. C'est intéressant, hein? Donc vous pouvez dire, bon, c'est une déchéance de parler de culture plutôt que de philosophie, mais attention, vous voyez, cette déchéance, cette prétendue déchéance, c'est justement ici que se joue une critique radicale de la philosophie aussi. C'est-à-dire l'idée que la philosophie ne peut pas inventer la bonne âme. Elle peut cultiver la bonne terre, mais elle ne peut pas l'inventer, elle ne peut pas la recréer, elle ne peut pas... Et donc il y a quelque chose qui est peut-être, voilà, en attente du mystère de la grâce. Oui. Il y a une limite à la philosophie. Alors, autre passage des Tusculanes, voyez, où on voit ce transfert donc, ici de la culture de la terre à la culture telle qu'on a pu l'entendre jusqu'avant l'invention du ministère de la culture, donc. La culture de l'homme, de l'esprit. C'est un passage où Cicéron essaye de penser l'immortalité de l'âme, essaye de donner des preuves de l'immortalité de l'âme. Chez Cicéron, les preuves ne sont pas des preuves qui se veulent absolues, c'est un truc qu'on doit sentir, hein. On parle souvent du scepticisme ou du probabilisme, en fait, de Cicéron. Mais malgré tout, il a une assurance qui n'a rien à voir avec une sorte de certitude métaphysique, mais une assurance existentielle, on pourrait dire déjà chez Cicéron, que voilà, l'âme est immortelle. Et il prend quoi comme exemple? De la dignité humaine, la dignité humaine liée à son immortalité de l'âme. C'est quoi l'exemple? C'est que l'homme plante des arbres. Vous savez, preuve de l'immortalité de l'âme par le fait que l'homme plante des arbres. Preuve que l'âme est immortelle au sens où, du moins, l'homme n'est vraiment homme que lorsqu'il pense une temporalité quand il s'ouvre à une temporalité qui excède sa temporalité individuelle. C'est ça un homme. Il est ouvert à ce qui est au-delà de sa mort, même à l'intérieur de l'histoire, parce qu'il plante des arbres. Voyez ce passage, par où encore on voit que la nature elle-même décide tacitement pour notre immortalité. La nature elle-même décide tacitement pour notre immortalité. Voyez, la nature nous laisse entendre que nous sommes immortels. C'est par cette ardeur avec laquelle tous les hommes travaillent pour un avenir qui ne sera qu'après leur mort. Les hommes travaillent avec ardeur pour un avenir. La dignité humaine, elle est du côté de ce travail pour un avenir qui excède mon temps individuel. C'est quelque chose qui sera repris par Hannah Arendt. Vous savez, quand elle va essayer de distinguer une œuvre d'un simple objet de consommation, d'un simple produit, elle dit le propre de l'œuvre, c'est qu'elle dépasse le temps de celui qui l'a produit. À une œuvre, elle traverse le temps des individus. Un monde où tout s'accélère, où la réussite est toujours sur un temps court, c'est un monde où il n'y a plus d'œuvre. Il n'y a plus d'œuvre d'art. Il y a des coûts médiatiques, artistiques, mais il n'y a plus, à proprement parler, d'œuvre. Parce que ça disparaît, parce que tout est repris dans une sorte, vous voyez, l'œuvre suivante abolit la précédente. L'obsolescence des produits technologiques fait que ces produits ne sont pas des œuvres. Il n'y a pas d'œuvre technologique, parce que ça ne peut pas durer. L'œuvre s'inscrit dans une durée qui est celle de la culture et qui excède le temps individuel. Vous voyez, grande remarque sur la notion d'œuvre chez Hannah Arendt. Alors, c'est exactement ce dont parle ici Cicéron, et voilà ce qu'il écrit. Il cite ce vers, je crois qu'on le trouve à deux reprises dans son œuvre. D'une œuvre, je ne connais pas cette œuvre de Cécilius dans les Cinéphèbes. Voilà ce vers. Nous plantons des arbres qui ne porteront que dans un autre siècle. Nous plantons des arbres qui ne porteront du fruit, donc, que dans un autre siècle. Pourquoi en planter, dit Cicéron, si les siècles qui nous suivront ne nous touchaient en rien? Regardez cette phrase extraordinaire. Pourquoi en planter si les siècles qui nous suivront ne nous touchaient en rien? Et de même, qu'un homme qui cultive avec soin la terre, plante des arbres sans espérer d'y voir jamais de fruits, un grand personnage ne plante-t-il pas, si j'ose dire, des lois, des coutumes, des républiques? Pourquoi cette passion d'avoir des enfants ou d'en adopter et de perpétuer son nom? C'est très intéressant parce que, vous voyez, l'homme politique, mais aussi le père de famille, a pour modèle celui qui plante les arbres ici. Je plante pour des fruits que je ne cueillerai pas. C'est des remarques qu'on retrouvera chez Charles Péguy, disant que le père de famille est celui qui a le plus grand sens politique parce qu'il souffre pour un temps qui n'est pas le sien. Il souffre aussi pour le temps de ses enfants. Donc il est le seul à être vraiment ouvert à l'avenir. Alors que, vous voyez, l'homme politique, simplement parce qu'il appartient à un parti, vous voyez, le politicien, si vous voulez, celui-là, il fait campagne, il veut gagner une élection, il veut... Quel est son rapport vraiment à l'avenir? Est-ce qu'il est capable d'aller au-delà de son mandat? Vous voyez? D'une réforme qui serait celle, vous voyez, liée au succès de son mandat et de sa réélection. Non, planter des arbres, c'est avoir une vie qui excède ma temporalité individuelle. Et vous voyez, c'est à l'intérieur de l'agriculture, donc là, forestière, pas simplement, parce que là, ici, ce n'est pas les forêts, puisqu'on pense que ce sont des vergers, donc c'est plutôt les arbres fruitiers qui sont en jeu. Mais vous voyez, ça nous ouvre à une autre temporalité. Les arbres sont le lieu chez l'homme de l'ouverture à une temporalité qui est plus grande que celle de l'individu humain. Notre rapport aux arbres, ce n'est pas simplement un rapport à une verticalité, c'est aussi un rapport à un temps long. Les arbres ne poussent pas d'abord dans l'espace, mais dans le temps. Et c'est cette ouverture au temps long que permet le rapport aux arbres. Et vous voyez, dans un monde où tout accélère, la question de l'exploitation forestière devient une question assez problématique parce qu'on voudrait que les arbres poussent plus vite qu'ils ne peuvent. Si vous avez une opération, vous savez, de sollicitation, de pression sur la nature, on voudrait la faire accélérer parce que voilà, on utilise un monde techno-industriel, ne cesse d'extraire, de multiplier, mais il y a une inertie. Alors vous voyez, qu'est-ce qu'on vient de découvrir là avec Cicéron? C'est un truc assez extraordinaire. Les objets technologiques sont moins ouverts à l'avenir que les arbres. Celui qui plante un arbre est plus tourné vers l'avenir, fait plus dans le lien avec l'avenir, puisque c'est un temps vraiment qu'il excède, que celui qui a inventé, que Steve Jobs, si vous voulez, parce que lui c'est son gadget qui sera supplanté par un second gadget, etc. C'est ça la culture. Vous voyez? Voilà ce qu'on est en train de découvrir. La culture, c'est d'abord cela. Alors, on va arriver vers une conclusion. Qu'est-ce qui est en jeu foncièrement dans l'acte de culture? On n'est pas passif quand on cultive. On n'est pas passif. On est actif. Mais en même temps, on n'est pas le seul acteur. on n'est peut-être même pas l'acteur principal. Qu'est-ce qu'on fait? On est plutôt dans une réceptivité active. Ça ressemble à l'art de la sage-femme, c'est pour ça que la maïeutique sera très importante, vous vous souvenez, hein, chez les Grecs. Qu'est-ce que vous faites quand vous vous accouchez? Est-ce qu'une femme accouche? Oui, elle accouche, mais est-ce qu'elle accouche activement? En fait, il y a un moment dans l'accouchement, vous savez, où la femme, elle y va, elle commence à faire son travail respiratoire, elle se met sur des gros ballons, enfin, on lui invente des tas de choses, enfin, vous connaissez ça, certaines d'entre vous connaissent ça spécialement. Et puis, il y a un moment où elle n'en peut plus, vous voyez, où elle dit non, j'arrête. Mais elle ne peut plus arrêter. Mais non, là, s'il vous plaît, on peut arrêter, madame You, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas, il n'y a pas un truc pour... Alors, bien sûr, on va inventer des choses, les péridurales, les machins, enfin, en même temps, hein, voilà, ce sera toujours quelque chose, un moment... Mais est-ce que la femme est simplement passive? C'est ça la question. En tout cas, la sage-femme, elle n'est pas passive, entièrement, en tout cas. Et donc, c'est très mystérieux parce qu'on va dire, vous avez aujourd'hui, parce qu'on a été très très loin dans la logique de l'accouchement où vraiment c'était une sorte d'extraction, quoi, à l'époque, vous voyez, on pensait qu'on faisait tout. Maintenant, vous avez tendance chez les sages-femmes, j'ai pu voir ça récemment en allant à la maison de naissance de Villars-sur-Glâne, où c'est l'inverse, on dit non, c'est la nature qui fait tout. Et c'est pas faux, bien sûr. Vous savez bien que des tas de choses, tout un dispositif hormonal se met en route, qui fait que d'une certaine façon, celle qui accouche, c'est un peu comme quelqu'un, vous savez, qui se jette dans un fleuve, et elle n'y a plus qu'à se laisser porter par le courant. Donc son activité, c'est une activité quand même, c'est pour ne pas trop gesticuler, sinon vous noyez. Vous voyez ? Bon. Mais il y a quelque chose à faire, enfin, ou à faire pour ne pas faire, pour ne pas en faire trop. Vous faites sans trop en faire. Vous devez avoir pour premier faire de ne pas trop en faire. Enfin, même s'il ne faut rien faire, il faut le faire, vous voyez. C'est ça ce que je veux dire. Non, mais c'est très intéressant parce que ça nous montre qu'est-ce que c'est que cette réceptivité active, vous voyez. C'est une action, ce n'est pas une inaction. Et si vous provoquez un accouchement, quand vous provoquez un accouchement, ce qui arrive, même parfois, certains veulent que ce soit provoqué parce que, vous savez, ils ont des rendez-vous d'affaires. Enfin, c'est pas maintenant, vous avez de plus en plus de naissances par césarienne, par provocation, parce qu'il faut que ça s'inscrive vraiment dans un agenda précis. Vous avez d'énormes problèmes parce que tout le dispositif hormonal qui se déroule normalement à partir du progrès, je dirais, normal, naturel, vous voyez, de l'accouchement, n'est pas en place. Ce qui fait que vous provoquez un truc, vous ouvrez, mais il n'y a pas le courant, quoi, derrière. Donc, vous devez compenser par des tas d'autres choses et vous devrez multiplier la chimie pour compenser l'effet artificiel que vous avez déjà produit. Donc, vous voyez, il y a des choses qui sont... vous voyez bien que quand on fait trop, il va falloir encore faire plus. C'est bien ça, le problème. Pour compenser les effets négatifs du voilà. Donc, de quoi s'agit-il ici? C'est de dire qu'il y a une activité dans la culture, mais c'est une activité où l'on accompagne, où l'on prolonge, où l'on perfectionne aussi un dynamisme qui est d'abord naturel. La notion de culture ne peut pas être la notion qui est opposée à la notion de nature, justement. C'est ça qui est très important à comprendre. Vous voyez, on a eu tendance à opposer culture et nature. L'homme est un être de culture, donc il n'y a pas de nature. Ou l'homme est un être de nature, donc la culture, vous voyez, retour à la nature, pas de culture. La culture, c'est pas bien, etc. Mais c'est absurde, puisque la notion de culture suppose le fait d'accompagner une nature. Il ne peut pas y avoir de relation de contrariété entre culture et nature. La culture est ce qui accompagne un dynamisme naturel. Et donc, la culture est ce qui reconnaît d'abord un donné organique. La culture est du côté du sens de l'organisme plutôt que du sens de l'organisation, si je veux dire. Ce n'est pas nous qui organisons, il y a quelque chose qui est organiquement donné et que l'on va prolonger. Bien sûr qu'il faut accompagner parce que, malgré tout, tout cela est marqué par aussi un désordre mystérieux. C'est quoi le péché originel? La nature, ce n'est pas la pure nature harmonieuse. Il y a toujours des problèmes. Il y a toujours eu des problèmes. Je viens de découvrir un truc, par exemple, récemment, ça m'a stupéfait quand même, que l'homme du paléolithique pratiquait la surchasse, déjà. C'est-à-dire qu'en fait, croire qu'au paléolithique, il y avait une sorte d'harmonie parfaite, etc., du chasseur-cueilleur avec son environnement, mais pas du tout. Il y a des espèces, et notamment toutes les espèces de la mégafaune, à ne pas confondre avec le mégaphone. La mégafaune, c'est les animaux très très grands. Vous savez, il y a eu des animaux très très grands. 3,50 m, etc. Par exemple, les moas de Nouvelle-Zélande, c'était des oiseaux, ils mesuraient 3,50 m. Vous imaginez un poulet de 3,50 m, la fête que vous pouvez faire avec. Eh bien, les Maoris, quand ils ont débarqué en Nouvelle-Zélande, donc c'est il y a très longtemps, vous savez, ils sont mis à chasser le moa, parce que le moa est haïssable. Non, c'est une blague. Une blague pour les pascaliens. Non, parce qu'ils chassaient le moa pour faire la fête. Mais le problème des animaux qui appartiennent à la... Le problème des animaux qui appartiennent à la mégafaune, c'est que, comme ils sont très très gros, ils ont des temps de gestation très très longs et ils font un petit à chaque fois. Donc, ils ne se multiplient pas beaucoup. Eh bien, on a fait un calcul, on sait qu'en en chassant simplement un par an, on pouvait détruire entièrement la mégafaune d'un endroit. Voilà. Et alors, on a retrouvé des ruines maoris où il y avait des énormes barbecues pour mettre à la broche des oiseaux de 3,50 m. Quoi. Bon. Ça faisait des nuggets. Hein. Là, je vous dis, là... Bon, alors... Donc, il y a toujours un problème, il y a toujours un rééquilibrage, il y a toujours des infestations, des choses. Et il faut toujours réfléchir comment faire pour que la culture se passe au mieux, pour nourrir les hommes. Quelle espèce je vais planter à côté de quelle autre pour la protéger, voyez, ne pas surexploiter la terre de telle sorte qu'elle devient incapable de fournir encore, etc. Donc, vous voyez, la culture, elle est là, elle est une activité très intense, peut-être plus difficile que d'y arriver avec, si j'ose dire, ces gros sabots, en fait, ce ne sont pas des sabots, avec ces grosses machines, les sabots, c'est paysan, avec ces trucs énormes où vous dévastez tout. Et vous dites, voilà, on a sorti des trucs vachement, mais au bout d'un moment, ça ne marche plus. Donc, vous comprenez que quand vous construisez tout, c'est plus facile. Quand vous êtes dans l'action qui est celle de la réceptivité, vous devez vous mettre à l'écoute, c'est plus difficile. C'est l'activité la plus difficile. Et c'est toujours plus facile d'essayer de tout construire ou de tout reconstruire. Vous voyez ? Parce que quand on construit, on n'a pas besoin de rencontrer, justement. On n'a pas besoin d'aller à la rencontre de quelque chose qui est donné d'abord. Donc vous voyez, derrière la notion de culture, il y a la notion de réceptivité d'abord à un donné. Et c'est pour cela qu'il y a un lien entre le monde de la culture et celui de l'ouverture au Dieu et même à la transcendance. Je vous ai mis un texte de Fabrice Hadjadj. C'est vrai, on le lit assez peu dans ce cours. On l'entend beaucoup, mais on ne le lit pas, hein, remarquez-le quand même. Alors qu'il y a des gens qui ne font que le lire. Merci. Vous pouvez tirer ça dans le micro ?
Les pauvres.
Voilà. Mais en même temps, heureux les pauvres. Alors, vous voulez dire quelque chose, oui, Joseph ?
Oui, heureux les pauvres, mais il manque la suite.
Oui. Oui, non, bien sûr, parce que si je laisse en suspens, On pourrait croire que c'est effectivement heureux les pauvres car ils diront Fabrice Hadjadj, mais c'est pas. Et c'était effectivement ce que j'avais à l'esprit, bien sûr. Mais, bon. Mais je voulais laisser ça en. Voilà. Dans ce passage, j'essaye de mettre en avant, vous le lirez, je ne vais pas vous le relire, mais la question du lien entre la culture, l'agriculture et la religion, donc le culte. Et la remarque est la suivante, c'est que pour parler de l'idolâtrie, on met souvent en avant plutôt le geste de l'artisan, celui qui fabrique des idoles, de l'artisan commerçant. Et vous avez notamment ce passage très important dans les Actes des Apôtres où il y a une révolte des artisans qui fabriquent des petits temples d'Artémis. Vous savez, c'était un truc, vous alliez au temple d'Artémis à Éphèse, le fameux temple d'ailleurs qui sera brûlé par Hérostrate. Vous allez au temple d'Artémis à Éphèse et puis vous repartez avec des souvenirs. Et les boutiques, ils faisaient des petits temples. Chacun revenait avec eux, avec leur petit temple. Et ils rendaient un culte devant ce petit temple, un peu comme quand vous allez à Lourdes, quoi. Bon, pour prendre d'autres exemples de paganisme. Alors, non, c'est de la méchanceté. Mais enfin, bon, j'en reparlerai un jour, si vous voulez. Parce que je suis très favorable à la piété populaire, en plus. Mais... Enfin, c'est ma piété, d'ailleurs. Mais c'est, non, c'est vrai. Moi, j'ai une Vierge Marie phosphorescente made in China. Et elle ne me permet pas de prier. Mais j'ai souvent joué avec les enfants avec. Alors voilà. Puisqu'il n'y a pas de Playmobil Marie, mais à Lourdes, vous pouvez trouver des trucs... Ah si, il y en a, je l'ai eu, la crèche Playmobil, c'est vrai. En plus, elle a raison. Bon, il y en a peu, c'est ça ce que je veux dire. Donc voilà, on peut compenser avec des articles vraiment très très bien que vous pouvez trouver dans les bonnes boutiques lourdaises. Alors, cela dit, vous savez qu'il y a eu un passage très bon, justement j'ai parlé de Francis Jamm au début, vous savez Francis Jamm qui était qui a fait les géorgiques chrétiennes, donc je vous ai dit, Francis Jamm c'est un ami de Paul Claudel aussi, et il a écrit un très beau livre qui s'appelle Le pèlerin de Lourdes, et à un moment il est avec Claudel à Lourdes, et il passe devant une boutique d'objets de piété, et Claudel devient pâle, rouge, il passe par toutes les couleurs. En regardant une des statues, il dit « Ah, je le vois, le saligaud qui a fabriqué cette statue de la Vierge en ricanant. » Et alors, parce que c'est vrai qu'on voyait des choses comme ça avant, c'est quelque chose, hein, les objets immondes, quoi, vraiment immondes. Hein. Et alors, mais Francis Jamm se tourne vers lui, c'est Francis Jamm, c'est pas Claudel, justement. Il n'a pas du tout le même tempérament. Et Francis Jamm lui dit « Oui, mais, mon cher Paul, si une brave dame achète cette statue et qu'elle lui permet d'élever vers Dieu une bonne prière. La statue est là, je suis d'accord, mais la prière peut être belle. Qu'est-ce qu'il y a à dire ? Alors là, Claudel le regarde, consterné, et lui dit « Allons-nous-en parce que je vais perdre ce qui me reste de bon goût. Voilà. » Et c'est tout le problème, vous voyez, tout le problème, il est là. Si tu l'as... C'est qu'on ne peut pas s'arrêter à un simple jugement esthétique face à ces choses-là. Alors, mais même si elles posent problème. Vous voyez, c'est ça la question. C'est un problème. Je ne dis pas qu'on peut le résoudre. Donc, c'est plutôt l'artisan qui vend des petits objets, des choses, qui fabrique des statues. C'est ça l'idolâtrie. Ce n'est pas tellement le paysan, alors même que le mot paganisme vient de paysan. Vous voyez, c'est ça qui est curieux. Et en revanche, Paul va employer, lui, une référence agricole à plusieurs reprises, et notamment lorsqu'il va en Lycaonie, il dira « Le Dieu vivant n'a pas manqué de se rendre témoignage par ses bienfaits, vous dispensant du ciel des saisons fertiles, rassasiant vos cœurs de nourriture et de félicité. » Et le Dieu, le pater agricola, mon père, ce qu'on traduit par mon père vigneron, hein, dans l'évangile, chez saint Jean. Le père agriculteur, et Jésus désigne son père comme un agriculteur, comme un vigneron. Ici, on a un Dieu qui ressemble au Dieu païen, c'est que le christianisme n'abolit pas ce qu'il y a de bon dans le paganisme. La reconnaissance qu'il y a une donation initiale. Alors, d'où vient ce rapport, je vous l'ai dit, de l'agriculture à la culture et de la culture au culte? C'est que précisément, dans l'agriculture, l'acte même de l'agriculture implique un certain rapport au mystère. En lui-même, non pas en raison de l'incertitude météorologique, parce qu'il y a ça, bien sûr, il y a le fait que, bon, on ne sait pas quelle va être l'issue des récoltes, etc. Ça peut arriver, ça peut ne pas arriver, etc. C'est ça, c'est classique. Il y a ce problème. On a dit, voilà, pourquoi est-ce qu'on s'est mis à prier? Parce qu'on n'était pas sûr que ça pousse. On n'est pas sûr de faire des récoltes. Mais ce n'est pas d'abord cela. Ce n'est pas cette inquiétude qui cherche la sécurité. C'est d'abord la reconnaissance d'un don. C'est ça qui est au fond de l'ouverture au mystère. Voilà ce qui est écrit dans « Puisque tout est en voie de destruction ». Il y a une différence essentielle entre le travail de l'artisan et le travail du paysan. L'artisan imprime une forme dans la glaise, le bois ou l'argent. Il réclame à la nature surtout des matériaux. Le paysan, au contraire, accompagne la croissance d'une forme naturelle. Le sculpteur peut avoir un rapport quasi despotique au marbre, mais on ne sculpte pas la pomme comestible, on ne fait pas pousser l'herbe en tirant dessus. Cultiver, c'est accueillir un processus naturel, un dynamisme que nous n'avons pas produit, pour le mener à un nouvel épanouissement. Et c'est pourquoi l'agriculture contient déjà une dimension d'honneur et d'hospitalité. Vous vous souvenez, hein, rendre un culte, hein, colérer, c'est ça, hein, et habiter, hein, donc l'hospitalité, et peut servir de symbole à une première ouverture au transcendant. L'agriculteur reconnaît que le fruit n'est pas seulement celui de ses efforts, mais avant tout celui de la nature, d'un don initial qui n'est pas que celui d'un matériau, mais d'une forme et d'une formation dont il n'a pas eu l'idée. Il y a bien la sueur de son front qui goutte sur un sol souvent ingrat, mais s'il est l'auteur de semailles, il ne l'est ni de la semence, ni de sa poussée vers le soleil. Bien sûr, hein, c'est classique de sélectionner les semences, hein, chez les agriculteurs, mais la semence originellement n'est pas son œuvre. Et c'est pour cela qu'on trouvera aussi chez Paul cette phrase dans la première en Corinthiens, comparaison avec l'agriculture. « Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui donne la croissance. » Vous voyez, le fait qu'il y a un don dans le dynamisme et de la croissance végétale. Ainsi donc, ni celui qui plante n'est quelque chose, ni celui qui arrose, mais celui qui donne la croissance, Dieu. Nous sommes les coopérateurs de Dieu, et vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. C'est intéressant le déplacement tout d'un coup. On est passé d'une image agricole, mais on emploiera aussi l'image de la construction. Mais vous voyez, l'image agricole va... C'est pour montrer qu'on est dans quelque chose qui nous dépasse malgré tout. Hein. Un seul système métaphorique ne peut pas marcher pour parler du mystère divin. Il en faut toujours plusieurs. Faites très attention. Vous pouvez penser le rapport à Dieu en termes nuptial, mais vous devez aussi le penser en termes filial. Voyez ? Alors, vous voyez, ces deux systèmes métaphoriques, qui sont même, c'est pas que des métaphores, là, pour le coup, hein, c'est deux analogies, mais qui ne marchent pas ensemble, en plus. Parce que si vous êtes la fille et vous avez des noces avec le père, là, il y a un problème, là. Oh ! Faites gaffe, là. Oui, c'est vrai, on avait cet exemple en philosophie morale. Mais bon, ou alors, si vous vous souvenez, c'était l'histoire de qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus qu'un père et une fille survivants sur la Terre? Est-ce que l'inceste est encore la loi qu'il ne faut absolument pas transgresser, ou est-ce que la première loi, c'est soyez féconds? Vous vous souvenez, hein, c'était ça. Donc, je vous ai dit, c'est soyez féconds, ce n'est pas l'inceste la première loi. Et donc, c'était une manière casuistique de montrer la primauté de la première loi dans la Genèse, hein, soyez féconds, engendrés. Mais bon, on n'en est pas là, Dieu merci. D'autant qu'on s'était posé après la question de la manière. C'était, voilà. C'était un grand débat casuistique, mais enfin, on pourrait le prolonger. Mais la question ici, c'est surtout de bien voir... Non, je ne sais plus de quoi je parlais, en fait. Frédéric. Deux analogies, voilà. Les analogies ne sont pas pour montrer qu'elles font face à quelque chose qui nous transcende. Il est important que les analogies ne puissent pas se superposer, qu'il y ait une tension entre elles, une impossibilité au niveau humain. Vous voyez ? Nuptial, filial. Pour montrer qu'on est face à quelque chose qui nous transcende. De la même façon ici, vous avez l'agriculture et la construction. Or, on vient de vous dire que ce n'était pas pareil que la construction. Vous voyez ? Et c'est important de ne pas s'arrêter à une seule analogie, parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de mystère. Vous écrasez le mystère. Vous le ramenez au niveau de votre petite compréhension conceptuelle. Et ça, c'est une catastrophe. Vous voyez ? Donc, il ne faut pas avoir peur. Il y a toujours du jeu. Hein, il y a toujours une approximation, en fait. Par souvent deux analogies, voire trois, voire quatre, voire toute la langue, en fait, est là pour approcher le mystère de Dieu. Vous voyez, ça suffit pour vous dire. Alors, pour conclure, donc on voit bien que la culture est un acte où on ne construit pas tout, où l'on accompagne un dynamisme naturel, et donc où on est en rapport avec un don initial, d'où, vous voyez, le lien entre l'agriculture et le culte. Reconnaissance d'une donation. Mais voilà ce que la technologie tend à faire disparaître aussi. Je vous ai mis une citation pour finir, qui est un texte que j'ai lu pas plus tard qu'hier soir. J'ai retrouvé ce vieux livre de 1933, je n'avais que l'édition originale, je ne suis même pas sûr qu'il ait été réédité depuis. Un texte de Nicolas Berdiaïev, un grand auteur russe, souvent hétérodoxe sur des tas de choses, mais qui a souvent des intuitions aussi absolument géniales. Il est orthodoxe, mais je veux dire hétérodoxe au sens où parfois il a des thèses quand même assez curieuses du point de vue théologique. Des fulgurances et une puissance spéculative. Et surtout, je découvre dans ce texte de 1933, antérieur au texte de Heidegger sur la technique, les grands textes de Heidegger sur la technique, donc à une période en plus très très importante. Voilà ce qu'il écrit à propos de l'époque dans laquelle nous sommes. Époque qui est celle, grande révolution du XXe siècle, de la disparition du monde paysan, finalement. Où pour la première fois dans l'humanité, le monde rural devient inférieur au monde urbain. Où dans les pays européens, le monde agricole est réduit à une portion très très faible de la population. Donc où tout l'imaginaire agricole disparaît. Mais quand disparaît l'imaginaire agricole, est-ce que c'est simplement l'agriculture qui disparaît ? Non. C'est le rapport à un phénomène qui nous ouvrait à la culture de l'homme et au culte des dieux. C'est-à-dire, c'est le rapport à un phénomène qui structurait aussi notre ouverture à la transcendance. Si vous retirez ça, vous pouvez tomber dans un spiritualisme, mais un spiritualisme qui n'aura plus, voyez, une vraie colonne vertébrale, si j'ose dire, et une vraie profondeur. Voilà ce qu'écrit Nicolas Berdiaïev. On pourrait distinguer trois stades dans l'humanité. L'époque naturelle et organique. On pourrait dire que c'est un peu le paléolithique, si vous voulez. L'époque de la culture proprement dite. Et l'époque de la culture. Il y a eu une époque de la culture qui est l'époque néolithique, mais qui est aussi la grande époque, on pourrait dire, gréco-latine, chrétienne. Je prends simplement notre ère culturelle. Après, il y a bien sûr d'autres pays, mais marqués par cette culture néolithique. Et l'époque technomécanique. Donc nous sommes dans l'époque technomécanique. Et voilà comment il définit cette époque. Nous devons voir le sens de l'époque technique, son sens religieux, avant tout dans le fait qu'elle clôt la période tellurique de l'histoire, c'est-à-dire la période où on était d'abord en rapport avec la Terre, où l'homme était déterminé par la Terre, non seulement au sens physique, mais au sens métaphysique du mot. voyez, ce n'était pas simplement ce qui était en jeu, la culture pour produire des nourritures, mais dans la culture, un certain rapport au monde et donc toute une métaphysique sous-jacente. L'homme, et écoutez les conclusions qu'il en tire, ce n'est pas les conclusions ultimes, parce que Nicolas Berdaïev finit par une sorte d'utopie où l'esprit devrait à nouveau se subordonner les machines, etc. Bon, enfin bon, je ne vous ai pas mis la conclusion, mais il observe que cette situation-là, de perte de la culture, de disparition de la culture, va impliquer deux réactions. Écoutez, ça c'est très fort. L'homme s'estimant lésé par la perte de ce cosmos, où il occupait un rang hiérarchique et où il se sentait environné de forces suprêmes, cherche à se dédommager, à trouver un point d'appui en transférant le centre de gravité dans le moi, dans le sujet. Première réaction, à l'époque de la technique, puisque nous ne pouvons plus nous appuyer sur la terre, nous nous rabattons sur le sujet. L'individualisme serait lié à la perte du monde agricole, la perte du monde paysan. Vous voyez, quand je vous avais dit que la technique déterminait nos manières de penser, enfin les conditionnait du moins, là ce serait un lien. Avant, l'homme pouvait se sentir en rapport avec une structure cosmique. Si vous perdez cette culture, vous n'êtes plus qu'en rapport avec vous-même et même en rapport avec d'autres hommes. Toutes les questions vont être plus que des questions de rapport d'individu à individu. J'ai même pensé récemment que s'il y a une telle obsession du rapport homme-femme aujourd'hui, à tel point qu'on veut faire porter sur ce rapport presque le tout de l'humanité, même chez des grands penseurs comme Jean-Paul II ou Fabrice Adjadj, non mais vous comprenez, l'enjeu c'est qu'on insiste beaucoup là-dessus, j'ai insisté beaucoup là-dessus, mais je dois faire une remarque quand même qui est très importante, c'est que d'une certaine façon, on veut faire porter presque sur le corps de l'autre la perte de la terre. Quel est le seul être naturel que je rencontre maintenant dans le monde urbain? C'est l'autre homme. Et donc, je voudrais que la femme soit pour moi aussi mon retour à la nature, mon agriculture, vous pouvez labourer, mais enfin un certain temps quand même. Mais ça conduit à ça. Ça conduit à des déformations, à une perversion du fait qu'on veut donner au rapport inter-individuel et même au rapport sexuel, on voudrait y mettre une compensation de la perte du cosmos et de la perte de tout le rapport de la culture. Et à cause de ça, vous voyez, même dans le milieu chrétien où on insiste là-dessus, on peut écraser cette relation parce qu'on veut lui faire porter une charge trop lourde. Vous voyez ? C'est pour ça qu'il faut se poser vraiment les questions de la technique et de l'économie, et pas simplement poser que cette question-là, même si c'est en lien, je vous l'avais dit, autour de la notion de oikos. Mais vous voyez, c'est très important. Et puis, deuxième remarque, par ailleurs, donc vous voyez, première remarque, réaction, on revient vers le sujet parce qu'on a perdu le rapport à la terre, le rapport culturel à la terre. Par ailleurs, par réaction romantique, nous sommes enclins à idéaliser les anciennes époques culturelles qui ignoraient la machine, et cela est fort compréhensible dans notre vie contrefaite et écrasante. Parce que Berdiaïev dit, attention, vous pouvez alors à ce moment-là avoir la nostalgie du retour à la terre, nostalgie du monde sans machine, du retour à une sorte d'agriculture qui est complètement idéalisée. Il dit, mais ça encore, c'est lié à l'époque techno-mécanique, parce que cette époque, bien sûr, nous avilit en grande partie, mais, vous voyez, nous fait idéaliser des époques qui aussi avaient leurs problèmes. Et Berdiaïev disait, regardez l'agriculture, c'était quoi chez nous en Russie? C'était le servage. C'était aussi un esclavage. C'était pas l'esclavage des machines. Alors on pourrait lui répliquer, oui, enfin, c'est quand même une certaine forme d'agriculture un peu particulière, qui était une agriculture où un système politique de type féodal, vous voyez, avait s'emparé des fruits de la terre. Vous voyez, donc c'était peut-être aussi un problème politique, pas qu'un problème technique. Mais ce qui est certain, c'est que, je vous l'ai répété à longueur de cours, depuis le début de ce cours, le fantasme du retour à la nature, d'une nature immaculée, de l'homme qui aurait été dans des époques passées en parfaite harmonie avec la nature, ou qu'autrefois c'était nécessairement mieux en tout point, c'est faux aussi. Vous voyez ? En tout cas, nous sommes face à une catastrophe qui n'est pas qu'une catastrophe économique ou simplement technique, mais de notre référent spirituel premier, qui est celui du monde paysan. Le monde paysan est la réserve des grandes analogies spirituelles. Et à partir du moment où on le perd, eh bien, le monde spirituel lui-même est complètement déséquilibré. Ou même, on va penser la religion, je vous l'avais dit, la spiritualité comme une technique moderne, contemporaine. Oh, donnez-moi la recette de la sainteté. Oh, donnez-moi, dites-moi sur quel bouton je dois appuyer pour avoir la charité. Oh, dites-moi, vous voyez, c'est ça, tout ce que vous allez chercher en direction spirituelle, est-ce que vous êtes face à un paysan ? Le directeur spirituel, vous voyez comme un paysan ou comme un ingénieur ? Ou comme quelqu'un qui va appuyer sur les bons boutons ? Parce que si c'est un paysan, alors à ce moment-là, vous allez le laisser vous tailler certains de vos membres ouais, pour que ça pousse. Et puis, vous allez patienter parce que ça ne poussera pas, ça met du temps. Vous comprenez ? Si nous perdons ce rapport à ce donné initial qu'implique l'activité de la culture, à ce moment-là, on va avoir les mêmes mots, on va toujours parler de Dieu, on va toujours parler d'esprit, on va toujours parler de religion, on va toujours parler d'obéissance, de charité, mais on sera sur un modèle qui n'est plus le même. Est-ce qu'on peut substituer les métaphores évangéliques ou les images évangéliques ou les paraboles évangéliques qui sollicitent la nature et la culture, en fait, d'abord, le monde paysan, par des analogies du monde techno-économique? Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a un problème ici. Et c'est ce problème que nous essayons de penser depuis le début de ce cours. Voilà, on va s'arrêter ici. Merci.